suis venue du Maroc, d'une ville qui s'appelle Salé, à côté de Rabat. Salé, c'est une ville de tradition. Une ville où les femmes, elles ont un grand rôle en silence.
Dans le silence et la discrétion.
Dans le silence et la discrétion, elles ont un grand rôle à jouer vis-à-vis de leur enfant, de leur famille. Et moi, j'étais préparée pour tenir en maison de broder, de couture, de tissage, pour aider leur mari, aider leur enfant. Ça veut dire qu'on travaille chez nous à la maison. Je ne m'étais jamais rêvé d'un jour que je sors de ma ville ou mon pays pour y aller travailler en France ou faire le ménage. Ou... Toute une vie qui était nouvelle pour moi, qui m'a choquée. Savoir, nous, femmes émigrées, seules avec ses enfants, vous pouvez jamais imaginer parce que vous n'êtes jamais là, parce qu'on ne peut pas parler, on peut même dans ma tête, on ne permet pas de dire je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, je suis morte.
Je suis un corps sans esprit ou un esprit sans corps.
Jasad bila roh, roh aw roh bila jasad.
Mon problème, mon ami, ce sont les tourments de mon âme qui ont envahi un coin noir de mon être et qui refusent tout contact, préférant le silence.
Mushkilati ya sadiqi, an rohi hazina, jalisa fi rukn al-mudlam.
Je suis une petite fille dans un coin, les bras autour de la tête. La tête entre les genoux.
Voilà.
Qui ne veut rien d'autre que le silence. Sa blessure est profonde. Comme son sentiment d'injustice.
بإحساسها بالظلم.
C'est un livre comme un long poème, une mélopée, une musique lente, une prière pleine de larmes et de colère. C'est la vie de Fatima El Ayoubi, une vie de femme immigrée, une vie gâchée, passée à récurer, à nettoyer, à déplacer les canapés, au risque de s'y perdre. Pendant 16 ans, Fatima a été femme de ménage. Le matin, elle nettoyait des bureaux. L'après-midi, elle travaillait chez des particuliers. Le soir, elle faisait d'autres bureaux encore. Pendant 16 ans, Fatima a vécu la peur au ventre. Peur de ne pas pouvoir payer son loyer. Peur de ne pas pouvoir payer la cantine de ses deux filles. Peur de ne pas pouvoir y arriver. Et personne pour l'aider. Fatima s'y est perdue. Elle a marché sur ses rêves. Elle s'est oubliée, son âme battue par les vents. Un jour, son corps a lâché, elle est tombée. Aujourd'hui encore, Fatima est pleine de douleur. Elle ne peut pas rester assise très longtemps dans la même position. Son corps ne le supporte pas. Mais elle a retrouvé son âme. C'est d'entre les mains des médecins qu'est sortie sa nouvelle âme. C'est comme ça qu'elle le dit. Il y avait une tonne de cendres au fond d'elle. C'est Marie Peset, docteur en psychologie, psychanalyste et responsable de la consultation souffrance et travail de l'hôpital de Nanterre, qui a aidé cette âme à se dire. C'est ce long chemin que raconte Fatima El Ayoubi ce soir. C'est ce long chemin qu'elle raconte dans son livre « Prière à la lune ». C'est un long poème, un manifeste. Fatima El Ayoubi demande juste un peu de considération. Jusqu'à 21h, c'est la voix de Fatima, jeune Marocaine tout juste mariée, qui débarque en France au début des années 80, sans dire un mot de français, et qui se retrouve dans une chambre de 7 mètres carrés.
Je suis rentrée avec cet homme. Je vis la chambre où je suis, une chambre de bonne. Et j'y vis la vie que j'ai laissée là-bas, chez mes parents. Comme je dis toujours, on n'est pas riche d'argent, mais on est riche de famille, riche de culture. J'ai ma place, mes parents elles-mêmes, ma famille me respecte. J'ai un rêve de faire comme les autres, mais j'ai jamais rêvé d'avoir une chambre de 7 mètres en France au 7e étage. Mais bon, je me trouve, je me suis mariée, je suis en France, je ne peux pas accepter cette vie. Non, ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Bon, j'ai regardé autour de moi, j'ai parlé avec les gens, ils m'ont dit, tu fais la culture, tu fais les tissages, mais voilà, il y en a qui m'ont amené un petit chose à faire pour 5 francs, pour... mais non, ce n'est pas ça qui va me faire... Je suis restée 8 mois. Je suis enceinte. Le moment que je me trouve que je suis enceinte, tout est changé dans ma tête. C'est pas possible. Il y a les enfants qui vont venir. Et je peux pas faire souffrir cet enfant. Alors je regardais, il y a que le ménage. Je commençais avec une femme 2 fois par semaine, 30 fois l'heure. J'ai marché sur tout mon rêve. Sur les choses qu'il veut une femme comme moi. J'ai pas de diplôme. J'ai que 3 ans de l'école. Je sais que je suis une grande au fond. Je suis une responsable, je suis une sage. Bon, comment j'explique à cette femme qui ne m'a pas posé la question? Comment je vais lui dire je suis venue d'une grande famille? J'ai du culture, j'ai des traditions, j'ai une âme. Je ne peux pas, je ne parle pas français.
Quand vous arrivez, vous ne parlez pas français?
Jamais. Vous savez, oui et non. Et merci. C'est à part là qu'il a commencé la souffrance et la lutte. Je suis venue en France. Les gens échangent pour améliorer, mais je suis changée pour être mal.
C'est-à-dire que vous viviez mieux au Maroc?
Mieux qu'en France. Comme j'ai dit dans le livre, c'était le vent qui m'emportait, qu'elle porte une feuille ou un grain de sable. J'étais facile à emporter. Il m'a amené tout de suite, il m'a mis sur la terre de France. Où, comment? J'ai pas de place. Comment voler au Maroc? Il y a les diplômes, il y a les... Mais en France, pas de langue. Pas de diplôme. Et là, ça commence, comme je vous ai dit, ça commence des choses qui ils sont cassées et restées dans un coin au fond de moi.
À l'intérieur de vous.
À l'intérieur, c'est le
sang. C'est-à-dire que vous dites quoi?
Une tonne de cendres qui était au fond de moi.
Une tonne de cendres qui était au fond de vous.
Tout est cassé.
Et ça, c'est vous parlez de la petite Fatima.
Oui.
Tout en cendres.
Voilà. Tout est cassé.
Tout est cassé. Et ce que vous dites aussi, c'est que votre corps et votre âme se dissocie.
C'est normal.
C'est plus en, ça va plus
non.
Ensemble.
Il n'y a pas d'harmonie. Parce que le chemin sont séparés. Si je suis choisi le ménage, mon âme, il ne veut pas. C'est pas ça qu'il veut. Si je choisis suivre mon âme, c'est la pauvreté, c'est le besoin. Un enfant qui va venir. Alors choisis. Comme on a dit, j'ai choisi le travail parce qu'il faut vivre. Et l'âme était fâchée à côté. Je ne m'habille pas, je ne mets pas de parfum, pas de maquillage, je n'ai pas de sourire. Je ne sens rien. Je n'ai pas de goût, je n'ai pas d'âme, je n'ai rien.
Quand mais on vous touche, ça vous sentez pas?
C'est une planche qu'il faut courir, chercher les horaires de travail, courir, essuyer la poussière, chercher les horaires de travail, chercher à remplir la journée. Et c'est tout.
Mais vous dites aussi que dans votre travail, il y a de l'élégance.
J'aime bien ce foyer, j'aime bien qu'est-ce que j'ai fait. Parce que moi, quand j'étais petite, on me donne un morceau de tissu. Ils me disent, voilà, ils m'ont appris de faire joli ce morceau de tissu. Et bien, cette âme qui a appris à faire les choses comme il faut pour qu'on le mette sur la table, sur le canapé, pour qu'on s'habille. Est-ce que vous croyez que je vais faire quelque chose qui ne soit pas beau? Dans ma tête, c'est l'artisanat, c'est l'artiste.
C'est-à-dire que dans votre tête, tout ce qu'on vous avait appris et que vous auriez dû utiliser si vous étiez resté dans votre pays, que ça soit beau et bien fait, tout ce que vous avez appris, la broderie, le tissage.
Oui, mais je l'ai exprimé en travaillant le ménage. Même si c'est modeste et simple, il faut le rendre belle. Je suis dans un salon, il faut que je le mets bien. Je suis dans une cuisine, il faut que je la range bien.
Et c'est ça l'élégance dont vous parlez?
C'est ça l'élégance. Et moi, quand je travaille pas pour mes heures de telle heure à telle heure. Je travaille satisfaite quand je fais les choses bien. Je regarde et je vois sa maison, elle est beau. Mais qu'est-ce qui me fatigue? Le retour de ce travail. Mais c'est à moi, je donne, je fais de l'art, mais les gens, ils croient que je veux faire le ménage. Ménage, c'est sale, c'est la serpillière, c'est la balai. Non, chez moi, le ménage, c'est de l'art.
Pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu.
Merci pour tout ce que je n'ai pas. La scatine,
un job à l'usine, le choléra,
Brigitte à mon bras, des morpions,
des convictions.
Merci mille fois.
Merci pour tout ce que je n'ai pas. Oh, un vieux mari,
l'estime du tout Paris, un 4x4.
Le nez de Cléopâtre, la police au cul,
et un voisin du dessus.
Merci mille fois.
Merci pour tout ce que je n'ai pas.
Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas.
Merci mon Dieu de ne pas avoir pensé à moi. Merci mon Dieu, merci pour tout ce que je n'ai pas.
Sur France Inter, c'est la vie de Fatima El Ayoubi, une vie de femme immigrée, une vie gâchée, passée à récurer, à nettoyer, à déplacer les canapés, sans que jamais personne ne voie vraiment son travail, sans que jamais personne ne lui dise merci, comment ça va. Pendant 16 ans, Fatima a été une femme invisible, elle s'y est perdue, un jour, son corps a cassé.
Merci pour tout ce que je n'ai pas. Merci.
C'est quoi vos journées, Fatima?
Ma journée commence début à 4h du matin. Je me réveille à 4h. Je réveille la petite à 4h15. Elle a envie de dormir.
Ça fait le cœur.
Voilà, parce qu'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de les gens qui le gardent le matin à 6h du matin. Il faut trouver une femme. Alors, je la change, je la mets sur mon dos. Je descends chez moi à 4h30. J'arrive chez la dame à 5h15. Je pose la petite qu'elle dort et se réveille à 7h30 pour qu'elle va à l'école. Je prends le bus de 6h15 pour arriver à Portanière. J'ai fait les bureaux.
Vous nettoyez les bureaux pendant 2 heures.
2h30, de 6h à 8h30 du matin. La dame, elle amène la grande à l'école avec sa fille. Elle garde la petite. Je passe chez la dame à 9h pour récupérer la petite. Je rentre chez moi et je retourne à 5h30 chez la dame pour poser la petite qui était à l'école et l'autre qui était le bébé, et pour commencer encore de 6h à 8h30 du soir. Et c'était comme ça. Et après, j'ai trouvé le travail dans la journée, les filles ont été à l'école.
C'est-à-dire, en plus du travail du matin dans les bureaux et du soir dans les bureaux, oui, vous faisiez le ménage la journée?
Après, j'ai trouvé encore les 2h, 3h à Vésinet, à La Garenne, à Courbevoie, pour compléter. Mais je peux jamais être fière entre moi. Je dis voilà, j'ai fait ce travail, j'ai envie d'y aller le matin, il y a des collègues, on parle, on s'habille. Non, ce travail, c'est comme des voleuses. Je voulais pas les gens ils sachent qu'est-ce que j'ai fait comme travail.
Vous aviez honte?
Où je travaille. C'est normal, comme je vous ai dit, ce travail, personne ne lui a donné l'importance. Je vois le salaire, c'est pas ça, les considérations, c'est pas ça, et personne ne demande si vous êtes absente et si vous voulez s'arrêter au revoir. c'est pas une harmonie, c'est pas un lien. C'est les gens, chacun pour soi. Et en plus, le corps il s'abîme. Alors, canapé, déplacer ça, toute la journée. Ce corps, qui j'ai rien, j'ai ça, mon diplôme, que je dis.
Votre corps, c'est votre diplôme.
C'est mon diplôme, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, j'ai pas de papier, j'ai rien. Avec ma santé, avec mes mouvements, un jour, elle peut pas. Elle peut pas m'aider.
Un jour, votre corps a lâché.
C'est fini. Commence à m'attaquer de tous les côtés. M'attaquer, on dirait, je suis une bombe. Si je suis trop fatiguée, je crie sur tout le monde. Les choses, elles tombent. Je fais beaucoup tomber les choses dans mes mains. Et vraiment, je tourne, jour et nuit, quand je dors. Je dors et je me réveille parce que ma main, elle frotte.
Vous êtes en train de faire le ménage en dormant?
En dormant. Parce que la peur de ne pas arriver. La peur de je serai au chômage parce que moi je pas comme les autres, j'ai pas mes horaires affilés pour que je serai au chômage. 2 heures ici, 3 heures ici, vous aurez jamais au chômage. Bien. Là j'ai commencé à voir, je dors pas pendant 3-4 mois. J'ai parlé à mon médecin, il m'a donné des comprimés, je l'ai pris de 9 heures. Je dors de 9 heures à 2 heures du matin. 2 heures du matin je me réveille, je peux pas. À 6 heures moins quart je commence à m'endormir, il faut que je me réveille.
Et vous pensez la nuit, vous réfléchissez, ouais, vous pensez au travail?
C'est pour ça.
Vous pensez à quoi?
Toute la journée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais frotter le 3 bains par jour. Je vais faire l'escalier de trucs là. Et c'est pour ça que je dors pas parce que mon corps il est fatigué et il y a le travail qu'il faut faire. Et même des fois, j'y pleure. Et je sens que c'est pas que la douleur de l'heure de prendre un calmant ou quelque chose. Je rêve, j'ai des cauchemars. Et j'ai dit un jour, j'aime bien être vieille de 70 ans.
Vous étiez épuisée.
C'est fini.
Fini votre corps.
Mais vous savez pas, vous pouvez pas savoir, nous, femmes émigrées, tout seul avec ses enfants, vous pouvez jamais imaginer parce que vous êtes jamais là, parce qu'on peut pas parler, on peut même dans ma tête, on ne permet pas de dire je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, je suis morte. La vie, elle s'arrête. Si j'ai dit je suis fatiguée, c'est fini. C'est fini. On est au bord, mes filles, moi j'en ai au bord. J'y vais où? Qui c'est qui va m'aider?
Corps sans âme.
Voilà, comme Jessad Bilaroh.
Le désir de cette âme est le calme, le silence, la beauté, la musique.
Voilà.
Cette âme a besoin de sagesse. Elle prie pour la joie et la lumière. À côté de l'âme, le corps ne s'y retrouve pas. Que faire? Séparer leur route? Ce qui nourrit l'esprit ne nourrit pas le corps. Le corps dit, mon besoin est prioritaire à celui de l'âme, c'est une question de
survie. suis tombée un mardi, le jour de la galette du roi. Je travaille dans une école à ce moment-là. Il y a la directrice avec les enseignants et tout. Elle fait la galette du roi. Et c'était une tempête de neige, comme une tornade qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'arrive pour...
Vous ne savez pas ce qui s'est passé?
Non, non, c'est une tempête de neige très forte. Moi, j'ai ouvert la porte. Je n'étais pas au courant. Je lave, parce que le temps, il faut que je termine. J'ai ouvert la porte. On dirait quelqu'un qui a tenu mes pieds pour me jeter en bas d'escalier.
Vous êtes tombé 10 marches?
10 marches. Avec l'aspirateur à la main, je suis roulée comme un ballon. À ce moment-là, j'ai senti dans ma hanche, dans ma tête, il y a quelque chose. Et j'étais à l'hôpital jusqu'à minuit. Je suis rentrée chez moi et lendemain...
Vous n'avez rien eu?
J'ai rien. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas... Voilà.
Le choc.
Je me suis arrêtée 3-4 jours. J'ai dit, bon, je vais y aller. Parce que c'est toujours. Je suis tombée sur le dos. J'ai travaillé. J'ai fait un entorse. J'ai travaillé. J'ai fait un flibide. J'ai travaillé.
Et alors là, vous vous êtes dit, je suis tombée de l'escalier dimanche. Je vais travailler.
J'ai travaillé. Mais après, non.
Non,
parce que par terre mouillée, jusqu'à aujourd'hui, par terre mouillée, je tremble. Je peux pas.
Vous pouvez plus marcher sur un sol mouillé.
Je sais pas, je tremble.
Vous vous mettez à trembler.
Voilà. Et après, je peux pas.
Je peux pas. Ça veut dire quoi? C'est que vous vous levez pour aller travailler après cette chute et votre corps dit non.
Non. Je voulais jouer la maligne pour y aller parce qu'il y a les dettes, il y a les crédits. Il y a personne, il y a que moi et moi j'arrive pas.
Votre corps n'y arrive plus.
J'ai mal sur le côté gauche, le dos, la hanche, je boite. Et après, je dis non, je ne peux pas courir. Quand je marche, j'ai fait tout doucement. Il y a quelque chose au fond de moi qui me dit non, je ne cours pas. C'est fini. C'est comme ça.
Quelque chose a cassé. Fatima a mal. La douleur ne passe pas. Un premier médecin décide de lui faire passer des radios. Rien n'apparaît sur les clichés. Mais la douleur de Fatima est toujours là. Un deuxième médecin lui conseille de demander à son patron un travail moins dur. Fatima lui répond qu'il n'y a pas de ménage moins dur. L'expert de la sécurité sociale la juge apte à travailler. Mais avec quel corps, demande Fatima. C'est encore un autre médecin, le seul à avoir entendu sa douleur, qui l'envoie à la consultation de Marie Peset à l'hôpital de Nanterre. Marie Peset est docteur en psychologie et psychanalyste. C'est une des pionnières des consultations souffrance et travail en France.
C'est une femme qui a conseillé mon âme, qui lui a dit « Venez, vous avez votre part, la vie elle est pour vous », ce qu'elle lui a parlé. C'est bien comme on l'a parlé. Mon âme, elle était dans un tronc très loin, mais Madame Peset, elle a envoyé la corde.
Elle a sorti l'âme du trou.
Elle a sorti cette âme qui ne voulait pas bouger, qui ne voulait pas sortir, qui ne voulait rien voir. Elle a confiance en rien, en personne. Mais il a écouté Madame Peset. Il m'a posé des questions.
Et elle vous a cru?
Les questions qu'il m'a posées, elles m'ont rendue heureuse. Et j'ai dit, voilà une femme qui m'a posé les questions que j'ai besoin.
Et c'est quoi les questions? Qu'est-ce qui fait que ça fait sortir votre âme, comme vous dites?
Voilà, l'âme, elle ne va pas sortir vite. Attends, on va vraiment, il y a longtemps. Un jour, je lui ai dit que qu'à elle que j'ai dit. La peur est remplacée avec la douleur.
C'est ça. Avant, vous y aviez peur.
Avant, j'ai peur, mais après, j'ai la douleur. Et je pleure pour mes douleurs. Je parle avec elle et j'ai envie d'y aller, la voir tout de suite pour ces questions. Madame Peset, j'étais dans un tunnel qu'il n'y a pas de fenêtre. Et Madame Peset, c'était l'oxygène. J'ai besoin de quelqu'un qui sait me parler. Je vais parler de mes enfants, si j'ai un souci, je vais parler avec elle, j'ai décidé.
Marie Peset, je voulais vous demander, quelle femme avez-vous rencontrée quand vous avez vu Madame Fatima El Ayoubi pour la première fois arriver à votre consultation souffrance et travail à Nanterre? Quelle femme c'était?
Fatima était une femme atteinte d'un syndrome douloureux chronique qui avait envahi absolument tout son fonctionnement. Donc c'était une femme épuisée, éteinte, ne parlant pas, lourde, incapable de rester dans la même posture plus de quelques secondes, donc obligée de s'asseoir quelques secondes, de se lever très vite, de se tenir le dos au mur. Et très rapidement, je lui ai proposé de s'allonger. Alors vous me direz, pour une psychanalyste, c'est banal, mais là, ça n'était pas pour la mettre dans le cadre analytique, c'était véritablement parce qu'elle ne tenait aucune posture. Et même allongée, quelquefois, c'était compliqué. C'était quelqu'un qui ne pensait plus, qui était envahi par la douleur, qui cherchait une négociation avec son corps seconde après seconde, qui débarquait tous les jours. Et voilà, la détresse, un état de détresse absolue. Fallu beaucoup de travail pour tirer cette femme d'affaires. Il a fallu que le docteur Adeline prescrive une médicamentation assez lourde avec des morphiniques. Il a fallu,
pour ses douleurs.
Pour ses douleurs, il a fallu qu'on déblaie complètement le tableau social qui était... Comment voulez-vous qu'on démarre une psychothérapie avec quelqu'un qui n'a pas de quoi manger le lendemain ou dont les huissiers vont saisir l'appartement, les meubles, etc. Enfin, je dis, il faut pas imaginer... élaboré, comme on dit dans mon métier, dans une pauvreté et une détresse pareille. Donc moi, il fallait d'abord que je stabilise le cadre de la pensée future que Fatima allait pouvoir élaborer. Et je ne savais pas qu'elle allait être capable d'une telle pensée. Je pouvais pas le savoir à l'avance. Je voulais juste lui rendre un cadre qui la sorte de la précarité, parce qu'il a fallu téléphoner à ses 5 employeurs, leur expliquer qu'elle nous touchait plus aucune cotisation et que si on ne passait pas par l'acte de licenciement, on ne pourrait pas l'inscrire aux ACEDIC et obtenir qu'elle ait quand même un peu d'aide sociale. Et ses employeurs, qui étaient quelquefois des particuliers, étaient assez réticents, comme on l'est dans ce pays, à l'idée de licencier, de se retrouver après, peut-être poursuivi au prud'homme. Donc il a fallu aussi que je retrouve les 5 médecins du travail. Inutile de vous dire que Fatima était incapable de me donner tous ces renseignements. Il a fallu tout rédiger à sa place. Un travail totalement dehors de la psychanalyse, qui n'est pas du tout le mien, mais un travail nécessaire pour pouvoir commencer à soigner sa douleur, d'abord la douleur.
C'était un vrai médecin, c'était une vraie femme, c'était une grande femme pour moi, parce que sans elle, peut-être je ne serais pas là. Sans elle, je ne peux pas me consoler avec mon âme. Mon âme, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas parler, elle ne va pas aimer la vie. Et elle était pleine de poussière, pleine de malheur, pleine de choses. Vraiment, je ne sais pas, elle m'a sauvée. C'est la misère qui était dans mon âme. Et après, petit à petit, avec elle, la lumière commence à rentrer.
Mon travail de psychosomaticienne et de psychanalyste, c'est de rendre des outils mentaux à mes patients, de dégager une capacité de penser à côté de la douleur, de gagner du terrain comme ça, de plus en plus, pour que la douleur soit un événement parmi d'autres, et pas tout le temps au premier plan. Donc il faut reconquérir le territoire, centimètre par centimètre, morceau de vie par morceau de vie, pour reconstruire une chronologie, et que la personne puisse se souvenir qu'elle a peut-être été une enfant radieuse, en tout cas sans douleur, et que dans le parcours est arrivée la suite d'événements qui a provoqué l'effondrement. C'est aussi parce qu'on a tout remis en chronologie qu'une nuit, Fatima a pu se lever prise comme ça, d'un retour de sa capacité de penser, d'élaborer la situation, un retour qui s'est fait en arabe littéraire, c'est comme ça qu'elle a écrit, elle peut écrire en français. Sa langue maternelle, c'est l'arabe, et pas n'importe lequel, un arabe très, très fouillé, très soigné. C'est ça qui est revenu, et c'est comme ça qu'elle a pu recommencer.
Par l'arabe littéraire, et par l'écriture.
Par l'écriture, toutes les nuits, vraiment dans un travail réel, mais quasiment onirique, et apportant à sa séance cette espèce de seconde Fatima qui commençait à être dans la résurgence et à s'exprimer, et qui lui faisait très peur. Imaginez la pile de défense qu'on doit mettre en place quand on vit une vie de femme de ménage
tenir.
Pour tenir. pour tenir. Donc ces défenses, quand elles cèdent, elles donnent accès à la souffrance que les défenses cachaient. Et là, il faut pas être tout seul hein, pour l'affronter, cette souffrance, et puis il faut avoir des outils pour l'exprimer. Mais enfin, après, Fatima, elle a eu son talent, et je ne suis pour rien dans son talent. Hein. Je n'ai été que le crayon qui a écrit à sa place en français ce qu'elle énonçait en arabe ancien. Et nous avons passé des heures de séance à trouver le mot juste, qu'elle ne possédait pas, parce qu'elle ne parle pas un français encore totalement doté d'un vocabulaire suffisamment riche pour sa pensée. Donc je me devais de trouver chaque fois le bon mot. Elle me disait, non, c'est pas tout à fait ça. Donc il fallait que je lui explique le mot en français, lui dire ce que ça couvrait, et voir si ça correspondait bien à ce qu'elle voulait exprimer. Et moi, mon bonheur dans cette affaire, c'est que M. Bachary, l'éditeur, a fait entièrement retraduire le manuscrit de Fatima. Il ne s'est pas servi, entre guillemets, de ma traduction à moi. Et elles sont identiques.
C'est vrai ?
Oui, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que le travail de transcription, séance après séance, au plus près de la pensée de cette femme, a été efficace. C'est extraordinaire, hein ?
Ah oui,
ça, c'est du vrai travail de psychanalyste, oui.
C'est du vrai travail de psychanalyste, c'est ça que vous dites ?
Rendre le verbe à quelqu'un, oui.
Pendant 4 ans, Fatima a écrit chaque nuit. Pendant 4 ans, elle est arrivée à chaque séance de travail avec Marie Pesé, un papier à la main écrit en arabe littéraire. C'est ce qu'elle avait écrit dans la nuit. De cette écriture est né un livre comme un long poème. C'est le livre de Fatima El Ayoubi, Prière à la Lune. Et ce livre dit que l'écriture sauve. En 4e de couverture, il est écrit « J'ai allumé une flamme, j'ai posé mes charges précieuses sur mes épaules et je suis partie. Je ne pouvais plus marcher dans le noir. Je ne pouvais plus vivre dans la peur et l'humiliation. Je suis comme un livre. Toutes les femmes sont des livres dont le titre est le mari. Prenez le temps d'ouvrir les livres. » Elle est là, votre âme aujourd'hui, un peu cabossée.
Elle est sûre, elle est née à nouveau. Elle a une grande expérience, mais un petit âge. Elle a envie de toucher tout maintenant. Aider, parler, aider l'autre, aider n'importe comment, il faut aider. Aider tout, je trouve quelqu'un qui tombe, je lui donne ma main. Un clochard qui a envie de parler, je l'écoute. Je peux croire aussi les gens. Il faut croire les gens. Je veux écouter, croire les gens. Les gens, ils ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas mentir les gens sur leur santé, leur apparence, leur misère. Non. Il faut écouter. Pour guérir, il y a beaucoup mille et mille façons pour guérir les gens. Mais vraiment, ces médecins, 4-5 ans qu'on est ensemble, vraiment, je suis née à nouveau.
Et c'est pour ça que vous dites que vous avez écrit ce livre pour tous ceux qui ne parlent pas, pour tous ceux qu'on oublie, pour tous ceux qu'on ne voit pas et qui nettoient.
Moi, j'ai la chance de parler, mais des gens qui ne disent pas un mot. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Des choses cassées à l'intérieur. Moi, j'ai dit à la société, réfléchis un petit peu. Descendons un petit peu de notre haut. Je ne voulez pas être petite comme moi, je ne suis pas une petite, je suis une grande. Mais baissez-vous un petit peu. Et moi, je veux monter un petit peu, on va parler. On va équilibrer les choses. Je suis une femme qui a des enfants, une maman. Et mes enfants, ils ont besoin d'être fiers de moi. tous les enfants des femmes qui ont fait ce travail. Et tous les femmes qui ont fait ce travail, ils doivent à la société la reconnaissance. Et les enfants de ces femmes, ils doivent à la société de leur connaître leur fierté et le courage de leur maman. Et l'art de leur maman. On
c'est
attend.
Pour ça que
vous parlez. C'est pour ça que je parle. Et j'attends le retour pour mes enfants, pour tous les Fatima et pour tous les enfants et pour toutes les femmes qui sont venues de l'Afrique du Nord, qui ne savent pas parler français, qui ne disent pas un mot. Ils frottent, elles lavent, ils travaillent pour l'autre, on dirait pour leur famille, mais ils ne disent rien. Ça, c'est ces femmes, il faut parler de ces souffrances, ces lances, ces grands courages. Il a donné son corps. Vous avez vu une femme de ménage qui est arrivée à la retraite jusqu'à 65 ans? Jamais.
Vous savez ce qu'elle dit?
Oui.
Elle dit que vous avez sorti son âme.
Oui.
Avec une corde. Vous avez été chercher son âme.
Mais ça, je le fais pour tous les patients. Hein.
Mais c'est joliment dit,
mais
non?
C'est merveilleusement dit, mais elle a un talent d'écriture exceptionnel. Et ça, c'est pas moi qui lui ai donné, elle l'a. C'était juste enfoui. Derrière toutes les feuilles mortes dans le petit jardin qu'elle décrit, oui.
La petite Fatima.
La petite Fatima.
Qui était toute cassée. Ouais. Et Fatima décrit particulièrement bien la séparation entre son âme et son corps. C'est toujours l'un ou l'autre. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, son âme est dans son corps?
Ça, j'en doute absolument pas, mais ça fait maintenant très longtemps. Ça a été ça, hein, le travail de l'écriture nocturne. Lever ce mécanisme de défense terrible qu'est la répression de soi, pour s'accommoder d'une réalité maigre, hein, et difficile, où on réprime tous ses rêves, tous ses projets, tout ce qu'on aurait aimé être, où on plie son identité à la petite épaisseur de la réalité quotidienne. Et le travail psychothérapeutique, il permet ça, il permet d'ouvrir, hein, de lever ce mécanisme de défense et d'aller chercher les forces vives qui sont là. Elles sont jamais très loin. Oui, bien sûr que le fonctionnement psychique, l'âme de Fatima est totalement installée dans son corps.
Et pourtant, son corps reste douloureux aujourd'hui encore. Elle ne tient pas vraiment en place longtemps. Mais ça, c'est des séquelles. Là, on n'est plus dans de la somatisation.
Mais alors là, ne rêvons pas. On peut être psychosomaticien et savoir qu'on ne guérit pas quelqu'un des séquelles définitives, des atteintes motrices, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques liés au travail. Hein. Il y a une usure très forte. Elle me parlait encore aujourd'hui d'un poste de travail qu'elle avait occupé où elle nettoyait les cabanes de chantier. Hein. Elle a fait des choses particulièrement difficiles et effectivement d'habitude réservées aux hommes de ménage et pas aux femmes de ménage. Cette ardoise-là se paye, hein, ce qu'on appelle les empreintes du travail, et les empreintes sont définitives. Elle s'en débrouille mieux, ça ne l'empêche plus de penser, d'avoir une identité forte et vivante.
Mais son corps est cabossé.
Mais son corps est cassé, oui, définitivement. Mais l'âme est là, hein. Bien vivante et pulvérisante, à mon avis. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de l'âme de Fatima, j'en suis sûre. Ouais.
Wah, wah.
Aujourd'hui, Fatima gagne 600 euros par mois. C'est le montant de sa pension d'invalidité. Aujourd'hui, Fatima ne peut toujours pas rester assise dans la même position. Son corps lui fait toujours mal. Aujourd'hui, Fatima ne fait plus le ménage. Mais quel avenir pour elle ?
Je prends le bus, je vois les femmes habillées, coiffées. Les hommes sont beaux. Maintenant, je sors pour dire, je sors le matin. Et pourquoi je suis contente ? Parce que je sais, je prends le bus, mais je ne vais pas y aller faire le corvée. Et je fais une tour et je rentre. J'adore sortir le matin. J'adore être belle. J'adore bouger. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie. C'est pas comme je veux. Pourquoi je sens la douleur dans le côté gauche? Pourquoi j'ai la hanche? Pourquoi le dos? Pourquoi je ne peux pas rester assise? Pourquoi je ne peux pas rester debout comme je veux? Pourquoi je ne peux pas manipuler mon corps comme je veux? Pourquoi il faut que je l'écoute? C'est moi que j'écoute mon corps. Des fois, je bouge sans arrêt. Des fois, il faut être debout, il faut être assise. Les gens, ils regardent. Mon corps, avant, je le commande. Mais maintenant, c'est lui qui me commande. Je n'ai pas de corps, je n'ai pas mais j'ai quand même un âme qui jeûne. Mais maintenant, le corps, il est malade. L'âme, elle est là. C'est son tour à elle. Peut-être c'est bien aussi pour vivre, pour continuer à vivre. Et vraiment, moi, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de... Je suis jalouse. De femmes qui travaillent tranquille, qui font des petits métiers propres. Qui font le métier qu'elles aiment. Pas pourquoi pour moi. C'est pour ça que je vais continuer à faire l'école, lire, écrire.
Là, vous avez repris vos études ?
Pas encore. Je n'ai pas encore trouvé, mais je cherche, j'attends un petit peu pour voir. Faire. Maintenant, je peux lire quand même à la maison, bien tranquille.
Je en peux français, bien.
À la CNED.
Au CNED.
Voilà, et je vais voir.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez passer votre bac?
Je sais pas, peut-être, on sait jamais. Peut-être, j'ai envie.
Votre rêve, c'est quoi?
Mon rêve. Mon rêve pour faire trois choses.
D'accord.
Faire avocate pour rendre la justice. Enseigner l'histoire. Lutter contre l'ignorance. Travailler à l'hôpital. Pour ramener la santé aux gens.
Pour ramener l'âme?
La santé aux gens. Alors, il y a trois choses. C'est un rêve, je ne sais pas. Mais quand même, il faut rêver. Mais moi, c'est un vrai rêve. J'ai envie d'un vrai métier. Où je serai capable et sûre de le faire. Voilà, j'ai envie.
Quel avenir pour Fatima aujourd'hui avec 600 euros d'indemnité pour Cotorep, c'est ça? Elle est handicapée deuxième catégorie.
Invalidité deuxième catégorie qui est calculée sur le salaire qu'elle avait. Donc 600 euros, c'est impossible qu'elle s'en sorte.
On fait parler d'aide en commission de surendettement. Là, elle ne savait pas si on n'allait pas l'expulser. Enfin, quel avenir?
Quel avenir? Il faut qu'on continue, nous, dans l'équipe, à le lui fabriquer. Elle a très envie, en plus du livre, d'avoir un diplôme. Un vrai. Je pense que ce sera très fondateur pour elle. J'espère qu'une association de quartier un jour aura l'idée magnifique d'embaucher cette femme pour organiser des groupes de parole pour les femmes immigrées qui ont du mal à s'insérer. J'espère qu'on arrivera à la salarier sur ce genre de poste parce que elle ferait un travail remarquable.
Mais ma question, c'est quel dispositif a notre société pour des gens cassés?
Aucun.
Par le travail.
Il n'y a pas d'autres dispositifs que ceux qui sont en place. Et croyez-moi, notre équipe est très pointue sur l'utilisation stratégique de ces dispositifs. Et on a tout essayé. On ne fera pas mieux. Il faut qu'elle arrive à trouver un travail qui vienne en complément de l'invalidité qu'elle perçoit. On ne fera pas plus pour cette femme. Les dispositifs ne permettent pas de faire davantage. Donc il faut surtout souhaiter que ce livre se vende beaucoup pour lui faire un peu de droit d'auteur et lui permettre de faire des projets. Parce qu'autrement, sa réalité quotidienne restera extrêmement difficile. Et celle de ses deux filles aussi.
Mon Dieu, je demande le courage de dire tout ce que j'ai envie de dire.
إلهي أطلب منك الشجاعة لكي أتمكن من قول كل ما أريد قوله.
Afin que ma parole arrive à toutes les femmes.
هكذا كلامي يصل لكل امرأة.
À toutes les femmes qui veulent vivre dans la dignité et la sécurité.
إلى كلامي يصل إلى كل امرأة وكل النساء اللواتي يريدن أن يعيشن في بكبرياء. وبالطهر.
Aujourd'hui, je rêve d'une maison propre et belle, d'un jardin avec quelques plantes, d'une table et d'une chaise devant la fenêtre. Devant moi, une feuille et un crayon. Je me suis vue longtemps une épée à la main, le crayon dans l'autre. Le temps du combat à l'épée est terminé, il faut écrire. Fatima El Ayoubi.
C'est ce que je demande même. Quelqu'un qui peut financer mes études. Quelqu'un qui peut et peut me rendre comme une petite fille de 16 ans qui va à l'école tranquille. Je sors chez moi le matin avec ma carte orange, avec mon cartable, je vais à l'école et je rentre le soir tranquille. Je ne voulais pas penser à d'autres choses. Et si mon Dieu peut faire ça, peut-être il peut le faire. Il est capable. Et moi, je suis prête. C'est ça. Là, je peux dire que j'ai une histoire. Si je trouve ça, c'est vrai, j'ai une grande histoire. Et ça, c'est mon rêve. Et c'est ça l'histoire que je veux faire. Et pour pardonner, et pour être moi-même, je voulais faire des études.
Pour pardonner à qui?
À la vie. Je suis en affaire avec la vie.
Vous êtes en affaire avec la vie?
Avec la vie. Et j'aimerais bien, c'est pas, je le supplie pas, c'est ma part. Et je veux ma part. Je veux ma part.
Le livre de Fatima El Ayoubi est publié aux éditions Bachary et il s'appelle Prière à la Lune. Merci à Marie Peset et merci à Fatima. Merci à tous ceux qui ont travaillé à cette émission, Fanny Bouillon, Emmanuel Chupin, Pascal Baldassari et Michel Soulier.